Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre nos invités, le cinéaste Christophe Honoré pour son film Le Lycéen. L'un de ses films les plus personnels, son propre rôle est incarné par le jeune Paul Kircher qui sera également avec nous. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe Vandel.
Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Monsieur Vandel.
Tous les jours, Monsieur Lemoine, vous regardez la télé pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et ce week-end, vous êtes intéressé à des victoires.
Oui, et on va commencer par un blind joie, si vous voulez bien. C'est comme un blind test, mais avec des cris de joie. Ouais. Je vous fais entendre un cri de joie. Okay. Vous devez devenir de quelle équipe la personne est supporter. Alors, je vous rassure, c'est bien un cri de joie et pas une agression.
Mais c'est un malaise, non?
Ça ressemble.
Ça peut être un japonais. Ils ont gagné un très beau match, je ne me souviens plus
bravo,
lequel.
Bravo, vous avez l'oreille.
Il y a un côté harakiri.
Ouais, bah, pas du tout. C'était un supporter marocain. Après le 2-0 contre la Belgique. Et on le comprend d'être, qu'il soit heureux. Donc, félicitations. Je suis désolé, ça démarrait bien. Donc, félicitations Maroc pour leur très belle victoire hier. Mais celle qui nous intéresse, Philippe, évidemment, c'est celle de samedi. Vous voyez de quoi je parle?
Et oui.
La seule qui compte.
Mais la Starac.
Mais non, ça c'est parce que vous lisez le texte. Normalement, oui. C'était la France.
Oh là là.
Le mec qui te fout en l'air ton lancement. Tu te fais chier à faire des trucs. Oh là là là.
Il a tellement raison.
Et oui, non, c'est celle d'Anisha, la Starac. Elle était en finale contre Enola. Et c'était dur pour Enola car elle était à ça de gagner 100 000 euros et de sortir un album. Mais ça va, elle n'a pas eu l'air d'avoir trop le seum après sa défaite.
Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu.
Un bon résumé. Donc, c'était la grande finale, menée une fois de plus de main de maître par le grand Nikos Aliagas, qui a parfois des phrases qu'il est le seul à saisir. Là, tu n'avais pas intérêt à avoir pris l'apéro devant Argentine-Mexique, hein, parce que si tu voulais comprendre le déroulement de la finale, ça pouvait être compliqué.
Je vais annoncer dans un ordre aléatoire les noms des deux élèves qualifiés indépendamment de leur nombre de votes.
Voilà, vous avez 2 heures. Donc Nico, c'était en grande forme pour cette finale. Et là où je le préfère, c'est quand il meuble entre deux plateaux. Il n'y a pas meilleur. Il peut te faire des phrases à rallonge à volonté, même si à un moment, t'as plus l'impression d'avoir un animateur, mais plutôt un prédicateur.
Elle est allée chercher, toucher du doigt, cette lumière qui fait de l'artiste un être à part. Alléluia! Au-delà des enjeux, vous êtes venu comme un gars, un artiste. Et vous avez observé et vous avez donné la main. Et ça ne s'achète pas. Alléluia!
Wow. Nikos qui était là pour bien vendre aussi les invités de la finale, comme Soprano.
Soprano, artiste de scène, artiste de proximité.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait dire à Nikos que Soprano est un artiste de proximité? Ah. Dans quelle petite salle intimiste a-t-il bien pu le voir?
Hein? Moi, je dis plus rien.
Bah non, mais essayez de répondre au lieu de lire.
Dans son salon, peut-être.
Pas dans son salon. Non, la salle intimiste, c'est ça. Écoutez.
Artiste de proximité. Moi, je l'ai vu à Marseille. Au Vélodrome.
C'est intime, ouais.
Ah bah ouais, si pour toi la proximité, c'est le stade Vélodrome à Marseille. C'est vraiment que t'étais dans une loge VIP, hein, ou que t'as une vue d'aigle. Mais parfois, j'ai l'impression que Nikos dit l'inverse de ce qu'il veut dire. Enfin, du moins, j'espère. Sinon, cette reprise après la pub n'était pas super engageante.
Et c'est ainsi que continue la Star Academy, car vous n'êtes pas au bout de vos peines.
Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il reste 4 heures d'émission. C'était la dernière, donc tous les profs donnaient leur ressenti et leur promo. Car ils avaient tous un truc à vendre. Qui a un livre, qui a un projet de marque de chaussures, qui a un appareil à raclette. Et la meilleure promo était réalisée par Pierre Dobrouwer, le lunaire et attachant prof de théâtre. Lui, il nous parlait de son spectacle « Dis papa », dans lequel il improvise en répondant à des questions posées par le public. Et là, Nikos et Karim Acharny vont essayer de bien lui vendre son machin.
C'est le public qui a noté les questions et j'improvise.
Ah, vous improvisez?
Oui.
« Dis papa, pourquoi t'es à la télé et que tu regardes la Starac ?» C'est par exemple.
Par exemple. Et là, je dois répondre...
Et vous répondez?
Ben, je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'était la meilleure pub possible. Et là encore, je pense que Nikos a dit l'inverse de ce qu'il pensait. À mon avis, à la fin de l'extrait que je vais vous passer, il voulait dire « ne changez rien ».
C'est un excellent improvisateur, mais c'est quand il veut.
Ça donne envie.
Mais oui, ça donne envie. Gardez rien.
Je pense que c'est pas ça.
Ouais. Gardez rien.
Gardez rien. Ça aussi, c'est vendeur. Et enfin, samedi, on a eu le droit au parrain de la saison sur le plateau, Robbie Williams, qui a dit la seule chose qu'on attendait de la soirée.
Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Ah ouais, vous avez été bon ce soir.
Car oui, Philippe, vous pensez que j'allais oublier ça? Allez, juste pour se faire plaisir avant de se quitter.
Et Antoine Griezmann, qui lui va lever ce ballon. Kylian Mbappé!
doublé, 86e minute.
Allez les bleus.
Ça c'est mon japonais. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine qui sera en spectacle le 9 décembre à Montceau-les-Mines dans la salle L'Embarcadère. Merci Jean-Luc, à demain. Et puis aussi tout à l'heure, 16h-18h avec Stéphane Bern, historiquement vôtre. Stéphanie Loire,
oui,
votre indispensable ce matin.
Irène Cara qui en va rendre un hommage vibrant évidemment. Et puis on va parler de la réédition d'un album majeur du rap français, Dayam. Et cet album c'est l'école du micro d'argent, c'est le vôtre Philippe, le micro d'argent.
Exactement. Jean Z, votre indispensable du matin.
Alors, je vous parlais du seul jeu de danse qui me fait croire que je suis un danseur hors pair, alors que pas du tout. Ça s'appelle Just Dance 2023 et c'est de retour.
Et Irène Cara, on n'est pas loin de la danse, puisque c'était le titre de Flash Dance.
Exactement.
Si je ne me trompe pas. Dans un instant, nous serons avec le réalisateur Christophe Honoré, le jeune comédien Paul Kircher. On parle de ce film, Le Lycéen, mais d'abord musique avec Clara Luciani sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Cinéaste, romancier également. Parmi vos films, je vais citer Les Chansons d'amour, Plaire, aimer et courir vite, Prélude de Luc, Chambre 212 et le dernier Guermantes. Mercredi va sortir votre 14e long métrage, si j'ai bien compté, Le Lycéen avec Vincent Lacoste et Juliette Binoche. Et il évoque vos années de lycée et surtout ce séisme dans votre vie personnelle, la mort de votre père alors que vous n'aviez que 17 ans. Votre rôle est incarné par le jeune acteur Paul Kircher qui est ici dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Paul Kircher, présence très impressionnante, c'est pas moi qui le dis. Vous avez reçu le trophée du meilleur acteur au Festival de Saint-Sébastien pour ce film. Que raconte le film ? Parce que Christophe Honoré, c'est votre histoire, mais c'est pas non plus votre histoire. Le héros ne s'appelle pas Christophe, il s'appelle Lucas, mais en même temps, c'est vous.
Oui, alors après, c'est souvent ce qui se passe malgré tout au cinéma. On travaille toujours avec des souvenirs personnels et une espèce de récit intime. Mais c'est vrai que c'est pas moi dans la mesure où j'ai pas voulu faire un film de reconstitution. Vous voyez, c'est pas un film qui se passe dans les années 80, c'est vraiment un film qui se passe aujourd'hui. Et que j'avais aussi envie d'essayer de faire le portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'avoir 17 ans dans cette période et aussi dans cette période d'ailleurs d'après confinement et tout ça. Mais j'ai nourri après ce personnage d'émotions qui étaient les miennes quand effectivement à la suite de la disparition de mon père. Donc j'ai essayé de comme ça capter un personnage dans un moment de chaos.
C'est un rôle très difficile à tenir que celui de ce jeune homme et c'est assez rare pour être signalé. Vous avez vu pas moins de 300 jeunes comédiens pour le casting. Qu'est-ce qui vous a décidé pour Paul Kircher? Attention, c'est le truc le plus difficile à faire. C'est l'exercice d'admiration en présence de la personne intéressée.
Vous savez, les trucs de casting, c'est assez étrange. Déjà, c'est assez cruel, donc on essaye quand même d'être attentif à tout le monde, etc. Et puis, avec Paul, ça s'est fait en plusieurs étapes. À la fin, il y avait 5-6 comédiens. Et je crois que vraiment, ce qui m'a décidé avec Paul, c'est qu'on arrivait à établir une espèce de complicité entre nous au moment même des essais. C'est-à-dire qu'il y avait, il y avait une espèce de... Parce que forcément, des jeunes comédiens qui viennent dans un casting, ils sont un peu terrifiés, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils peuvent être soudain un peu solennels ou trop scolaires, etc. Et avec Paul, en fait, on commençait déjà un petit peu à s'amuser en casting. Et je crois que c'est cette idée-là, l'idée qu'il y avait un plaisir de jouer très, très fort chez lui et que j'avais presque l'impression qu'il disait « si j'ai pas le rôle, c'est pas très grave, mais déjà, c'est amusant de passer le casting ».
C'est ce que vous êtes dit? Si j'ai pas le rôle, c'est pas grave?
Ouais, certainement, en fait, mais aussi parce que... Ouais, c'est ça, certainement aussi parce que en fonction de comment ça se passe, qu'est-ce qu'attendait Christophe, parce que ce qu'il attendait, c'était des choses. Enfin, il n'y avait pas vraiment forcément trop d'attentes. Donc, moi aussi, j'avais de la détermination, mais oui, peut-être il y a un côté un peu comme ça, tranquille. Quoi.
C'est drôle, j'imaginais que c'était l'inverse. Le comédien qui a la détermination et le réalisateur, on ne sait pas trop ce qu'il attend. Alors, on va attendre Lucas qui raconte l'histoire et son personnage. Dans une sorte de monologue, je précise l'image, il est en gros plan, il ne regarde pas la caméra. Extrait.
Je m'appelle Lucas. Et ma vie est devenue une bête sauvage que je peux plus approcher sans qu'elle me morde. Je suis effrayé par toutes mes idées. Je reconnais plus rien. Tout ce qui se passe dans ma tête a l'air d'une menace. Faut que ça s'arrête. Faut que je sois capable de tout reprendre. Je le sens au fond de moi. C'est comme un besoin intérieur qui me pourrit les crânes. Quelque chose répète en moi que... Je dois tout rassembler.
je suis capable de revoir ce qui s'est passé. Ou alors c'est que je suis perdu et c'est fini. Je sais plus si je dois avoir peur que ce soit fini déjà. C'est idiot d'avoir peur de ce qui a déjà eu lieu.
Pardon de ce compliment, Christophe Honoré, mais c'est si puissamment écrit. Ma vie est devenue une bête sauvage que je ne peux plus approcher sans qu'elle me morde. Et à la fin, cette phrase, c'est idiot d'avoir peur de ce qui a déjà eu lieu. Ces formules, vous les aviez écrites lorsque vous étiez ado, sont des formules de jeunesse, vous écrivez des poèmes, ou alors c'est votre maturité qui vous permet aujourd'hui de synthétiser ce que vous étiez hier.
Ah, c'est rigolo que vous dites ça, parce qu'effectivement, je me suis replongé dans les carnets de poésie que je pouvais faire quand j'avais 17 ans et qui étaient assez lyriques. Et la première phrase, en fait, vient effectivement un peu d'un truc que j'écrivais quand j'avais 17 ans. Et par contre, la dernière phrase, elle n'est pas vraiment de moi. Je l'ai prise chez Barthes, en fait, dans Fragments du discours amoureux, où il dit ça, en fait. Et c'est quelque chose, en fait, je ne sais pas comment dire ça, l'espèce de chagrin qu'on interroge, parce que comme si une chose a déjà eu lieu et que ça ne sert à rien, en fait, d'avoir du chagrin sur ce qui a déjà eu lieu. Je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans, en fait, en tout cas, qui me touche beaucoup.
Et il faut faire quelque chose de ces poèmes, si je puis me permettre. Paul Kircher, et vous avez dit quoi, Christophe Honoré, sur le rôle ?
En fait, quand vous dites, c'est vrai, l'écriture, déjà, elle est hyper importante, quoi, l'écriture de Christophe dans le scénario. Alors déjà, me passer le scénario, c'était déjà beaucoup me dire. Ensuite,
Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi des scènes de nuit avec des garçons, ils vous avaient prévenu.
Ah oui, bah oui, bien sûr, on en avait discuté. Voilà, ensuite, ce genre de scènes, quand on les fait, c'est dans un contexte où on fait plein d'autres scènes tous les jours. Donc, en plus, c'est très chorégraphié. Non, c'était très bien. Non, mais en fait, le travail ensemble, ça a vraiment démarré, je pense, le premier jour de tournage. Avant ça, oui, il m'a donné le scénario, ce qui était beaucoup. D'autres choses, on a passé un peu de temps ensemble, mais sinon, ça a vraiment démarré le premier jour.
Je le redis parce que c'est un plaisir. Ma vie est devenue une bête sauvage que je ne peux plus approcher sans qu'elle me morde. J'adore cette image. Christophe Honoré et Paul Kircher, Culture Média, continue, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Christophe Honoré qui signe Le Lycéen, son 14e film, ça sort mercredi. C'est avec Juliette Binoche et Vincent Lacoste et Paul Kircher, si j'ose dire le jeune Paul Kircher, puisque vous jouez en quelque sorte Christophe Honoré à l'âge de 17 ans, vous êtes encore au lycée, ce qui est la définition du lycéen. C'est à la fois un film sur la jeunesse, mais vous l'avez dit, un film sur la jeunesse universelle, Christophe Honoré. Ce n'est pas une reconstitution, pourquoi ce choix ?
Pour éviter d'être complaisant. Je pense que quand on commence à arriver à 50 ans, on regarde toujours son adolescence avec... je ne sais pas, soit on y projette un romantisme un peu fiévreux, enfin on regarde souvent son adolescence, je ne sais pas comment dire ça, comme on pourrait se décerner des médailles, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de retrouver quelque chose d'assez organique sur l'adolescence et un mélange de beauté, d'ingratitude. Et donc, je me suis dit que pour ça, il fallait vraiment que je m'appuie sur un personnage d'aujourd'hui. Et puis pour moi, c'était aussi important. Moi, ma fille a 17 ans, elle est rentrée au lycée avec un masque, elle a fait sa deuxième année avec un masque, etc. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose sur la vulnérabilité de la jeunesse d'aujourd'hui, sur ce sentiment comme ça qu'ils ont d'avoir été privés, on va dire, d'une partie très, très importante de la jeunesse qui sont les années lycées. Et je trouve que dans le film, on s'en rend compte aussi.
Ils ont des masques dans le film. Vous avez tourné en période Covid où presque le masque était un accessoire de cinéma?
Non, on l'a vraiment tourné l'année dernière en décembre-janvier. Donc le Covid est présent dans le film. La campagne électorale qui démarrait sur les présidentielles aussi, etc. C'est des espèces de signes. Moi, je ne suis pas un cinéaste, on va dire, très naturaliste. Mais en revanche, j'aime bien cette idée que quand on filme au présent, il faut laisser le présent venir. Or, ça m'étonne un peu quand je vois les films de mes confrères là, qui sortent cet automne. Il y a des masques nulle part. Donc du coup, moi, j'imagine les armées d'assistants qu'il a dû avoir dans les rues pour bloquer les gens qui passaient les vélos avec des masques et tout ça. Et ça m'énerve. Je trouve que quand on prétend faire des films d'aujourd'hui, il faut laisser aujourd'hui laisser son empreinte dans les films.
Qu'est-ce qui a changé entre l'adolescence dans les années 80 et l'adolescence dans les années 2020 ? Je pose la question à Paul Kircher. Question d'autant plus perfide que dans les années 80, vous n'y étiez pas.
Oui, dans les années 80, j'y étais pas, donc je sais pas. Franchement,
vous auriez pu les magnifier.
Oui,
mais les jeunes de nos équipes magnifient les années 80 qu'ils n'ont pas connues. Moi, je peux vous dire que c'était formidable, mais c'est magnifié.
Ouais, en fait, c'est vrai, mais il y a des gens qui regardent le film et parfois qui ont dû pas trop comprendre certains trucs, mais qui disent « Ah, mais c'est un film qui se passe dans les années 80 », parce qu'il y a plein d'éléments qui disent que c'est pas dans les années 80. Mais il y a un truc...
Non, il y a des portables.
Ouais, il y a des portables, il y a les masques, il y a des éléments un peu qui se situent dans le temps. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde le film, peut-être on peut croire que c'est dans les années 80, donc preuve qu'il y a quelque chose d'assez, en vrai, pareil. Quoi.
Je vous pose la même question, Christophe Honoré. Qu'est-ce qui a changé dans l'adolescence d'aujourd'hui et l'adolescence de votre époque adolescente ?
Ben, je pense surtout que nous, quand on était adolescent à la fin des années 80, on pensait qu'on n'intéressait personne. Et ce qui est une énorme différence avec les adolescents d'aujourd'hui qui ont bien conscience, rien que sur le charme, vous voyez, sur la beauté, etc. Il y a un canon de beauté aujourd'hui qui est imposé, qui est vraiment sur l'adolescence, que vous voyez dans la mode, que vous voyez, Nous, à l'époque, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la non-séduction absolue. On pensait vrai... Enfin, Et puis on se mettait pas du tout en avant non plus. Je me souviens, dès qu'on avait une fringue neuve, par exemple, il fallait la cacher quand on en avait un peu honte par rapport à nos copains. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y avait pas du tout cette idée-là qu'on pouvait être une force d'attraction.
Quelque chose m'a étonné, il y a quelque chose qui a énormément changé, puisque c'est aussi un des sujets du film, c'est le rapport à l'homosexualité, qui ne gêne personne dans le cas de la famille de Luca. Or, vous, si j'ai bien lu, c'était la crainte de votre père.
Oui, bah c'est sûr que c'est pas exactement la même chose de se vivre homosexuel à la fin des années 80, en plus en démarrer sa sexualité en période de sida, etc. Et où aujourd'hui, il y a, en tout cas dans certaines familles... une sorte d'acceptation. Et c'est sûr que, par exemple, l'homosexualité du personnage n'est pas du tout un sujet du film. C'est une donnée de son identité et c'est important. Et dans ce chaos, justement, dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est aussi un chaos sensuel pour lui. C'est-à-dire qu'il y a comme ça cette idée qu'il s'imagine à un moment que la sensualité va peut-être le sauver, en fait, du chagrin. Il a une espèce d'illusion comme ça. Enfin, il se jette vraiment là-dedans. Mais forcément, la perception, en fait, de l'homosexualité par la société a énormément évolué.
Vous racontez une anecdote qui m'a fait froid dans le dos. Vous racontez que vous avez une grand-mère dont vous étiez le préféré, vous l'adoriez. Et quand elle a appris votre homosexualité, elle ne voulait même plus vous prendre au téléphone et a menacé d'appeler la police si vous la rappeliez.
Ouais, j'en parle justement dans une pièce qui s'appelle Le ciel de Nantes qu'on a montée l'année dernière. Bah voilà, c'est quand j'ai commencé mon premier livre, moi, c'était un livre pour enfants qui s'appelait Tout contre Léo et qui parlait justement de l'arrivée du sida dans une famille, le grand frère qui était touché par le sida. Et quand elle a lu ça, en fait, elle a compris un petit peu que. Et soudain, c'était terminé. C'est-à-dire, c'était impossible pour elle. Il y avait un vrai dégoût physique, je me souviens, très ancré. Et pourtant, on s'entendait à merveille avant. Et voilà.
Christophe Honoré et Paul Kircher avec nous dans Culture Média. On parle du lycéen. L'émission continue. On va aussi parler de musique et même de Flashdance.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
So 80.
Alors là,
c'est dans votre film, Christophe Honoré, dans le lycéen. Pourquoi ce titre ? C'est le titre emblématique de votre famille. C'est le premier moment de sourire dans le film, parce que je dis, il se passe des choses très très dures. Et le moment où l'oxygène revient, c'est avec ce titre d'Orchestral Manoeuvre in the Dark.
Bah, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment une madeleine. C'était mon grand frère d'ailleurs, plus parce que ça a dû sortir au début des années 80. Et voilà, ça c'était une espèce d'hymne absolu pour moi de la jeunesse, de l'adolescence.
Il y a de l'insouciance dedans, c'est bon.
Mais c'était tellement bien. C'était la New Wave. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous.
On va parler musique avec vous. Et vous commencez à un hommage à une artiste qui nous a quitté, Irène Cara. Ça vous parle, Irène Cara ?
Non.
Flashdance, ça vous parle ou pas ?
Non.
Non plus. Ni Irène Cara, ni Flashdance.
Paul sort immédiatement de ce studio.
C'est comme ça qu'on apprend. Qui était-elle pour Paul ?
Il va reconnaître le son, ça c'est certain. Cette chanteuse, elle s'appelle donc Irène Cara, star d'un film qui s'appelle Fame. Elle nous a quitté vendredi à l'âge de 63 ans. Pour le moment, on ne connaît pas encore la cause de la mort de cet artiste. Son plus grand rôle, elle le trouve à 20 ans dans un film culte réalisé par Alan Parker en 1980. Ce sera le rôle de sa vie, celui qui a changé le parcours d'une jeune femme originaire du Bronx qui rêvait de musique et de danse. Et ça sonne comme ça, Paul.
Alors, je vais raconter ce qui se passe en studio. Paul est circonspect. Stéphanie Loire danse. Et le sourire et sur le visage de Christophe Honoré. Ça vous parle, ça?
Ah bah Fame. Oui, tout à fait. Ouais.
Et vous n'aviez jamais entendu, Paul?
Fame, le film?
Non, si... cette chanson.
Non,
non,
la musique. Non. Non. Non, même pas dans une soirée chez des amis de vos parents?
Peut-être, peut-être.
Ok, Irène Cara, elle joue, elle chante, elle danse dans Fame. 3 ans plus tard, pour vous raconter un peu son parcours, en 1983, elle interprète un autre tube pour la bande-son d'un autre film gravé dans l'histoire, non pas pour la qualité de son scénario, mais pour sa musique. Le genre de titre qu'on a tous dans nos playlists pour relancer une soirée qui ronronne un peu, c'est Flashdance.
On en a fait décorer là-dessus.
Bah ouais.
Vous faites décorer, Christophe?
Ah bah, fou.
C'est vrai.
Moi, je me souviens, j'avais le poster, en fait, de l'affiche du film que j'avais dû prendre dans Salut Magazine à l'époque, ouais. Un truc comme ça. Ah bah ouais, Flashdance, c'était hyper important.
Tellement. Moi, j'ai glissé sur le parquet en chaussettes sur Flashdance.
Bah oui, oui.
Paul, il
est ébahi. Paul est ébahi d'entendre les deux qui racontent leur garde 14.
Non, mais le délire de Corée, c'est vrai que ça donne envie, là,
ouais, bien sûr. Et ça glisse bien sur le parquet du tuyau d'Europe 1, ouais. Hein, si vous voulez essayer.
Chacun
de ces deux titres, en tous les cas, ils ont été interprétés par Irène Cara et lui ont permis d'écrocher l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Fame en 1980, pour Flashdance, pour What a Feeling en 1984.
Autre info musique, et là encore, c'est nostalgique, c'est le 25e anniversaire d'un album de rap fondateur.
Oui, vendredi sortait la réédition du 3e album d'Aya. Mais initialement sorti en 1997, pardon, celui qui a marqué un véritable tournant dans l'histoire du rap français, c'est l'école du micro d'argent.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée.
Paul avec nous, Paul Cacheur est avec nous, on a tapé en plein cœur des souvenirs. Ça y est, il y a quelque chose là.
Ouais.
L'école du micro d'argent a l'âge aujourd'hui d'être un jeune adulte et pourtant il n'a pas le blues du quart de vie. À l'occasion de ses 25 ans, le disque revient dans une réédition agrémentée de plusieurs disques en vinyle. On y retrouve évidemment l'album original, mais aussi des versions, des démos inédites initialement destinées à la version américaine du disque, par exemple. Paul Kircher kiffe.
Ouais.
On retrouve aussi des medleys, des remixes, un Blu-ray avec des clips en version restaurée. C'est un très bel objet, cet objet vinyle qui est assez lourd. Hein, j'ai pas pu l'emmener parce que j'étais fatiguée aujourd'hui. Très bel objet à offrir à Noël aux amateurs du groupe de rap marseillais. Je rappelle que l'école du micro d'argent s'est écoulée à plus d'1,5 million d'exemplaires lors de sa sortie. En France, il est resté 155 semaines dans les classements.
Attends, des 155 d'albums. Semaines, c'est 3 ans.
Bah ouais, c'est ça.
Ouh là là.
Et parmi les classiques de cet album légendaire, il y a Petit Frère, bien sûr.
Il vient à peine de sortir de son œuf. Et déjà Petit Frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit Frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des portes de 7 lieux.
Petit Frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, Petit Frère.
Et j'ai une dernière info qui va sortir du rap, mais qui va nous ramener dans les années 80 à nouveau pour conclure. The Cure, le groupe pionnier de la New Wave, emmené par le charismatique Robert Smith, est en concert ce soir à l'Accor Arena de Bercy pour célébrer les 30 ans du mythique album Wish, dont il publie une réédition. Et sur cet album, il y a ce titre que j'adore. Friday I'm in Love, c'est marrant.
C'est extraordinaire parce que c'est les trois versants de la musique.
Ouais,
la dance, la new wave et le rap.
C'est, ouais, bon, on a les essentiels là.
Petit cours accéléré pour Paul Kircher. Merci beaucoup Stéphanie Loire. Vous étiez fan aussi des The Cure?
Ah, ou
de Vietnou. Quand on est en Bretagne, on devait adorer ça.
Boys Don't Cry. Pourquoi quand on est en Bretagne?
Parce que je pense aux transmusicales de Rennes et que c'est vraiment dans cet esprit-là de grande connaissance de la musique pointue qui venait d'Angleterre. Bah, je pense à Marquis de Sade, à Dao, à tous ces gens-là.
Marc Seberg.
Ouais.
C'était
une scène bretonne.
Tout à fait.
Philippe, vous devriez essayer la coupe de Robert Smith, la coupe arachnéenne, ça vous
dirait
bien.
Et j'aime tellement bien. Et le col sous les yeux. Culture Média, continuons à parler de jeux vidéo. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du cinéaste Christophe Honoré qui signe Le Lycéen. Ça sort mercredi. C'est avec Juliette Binoche et Vincent Lacoste et Paul Kircher qui joue le rôle titre qui est dans ce studio. Vous êtes un gamer, Paul Kircher?
Moi, non. Il n'y a que certains jeux que j'aime bien jouer, genre Hearthstone, genre Age of Empires, quoi. Mais bon, comme ça.
À part ça, vous n'êtes pas un gamer du tout. Jean Z, on va parler jeux vidéo. Imagine si vous avez dit « Oui, je suis un gamer
oui. ».
Imagine le truc déjà, tu vois. Et Jean va nous parler de musique dans les jeux vidéo. Il y a des musiques que vous aimez. C'est très important, la musique dans un jeu ou pas, ou c'est accessoire?
Ah non, mais ça peut vraiment porter le truc, hein. Que ce soit des musiques composées ou alors des musiques, par exemple, de jeux plus quotidiens, genre, je sais pas, moi, FIFA, que je joue souvent, la musique, c'est vrai que c'est hyper important, hein. Ça marque le jeu, en fait, hein.
Ce matin, un jeu vidéo Jean qui fait danser petits et grands depuis 2009.
Oui, ce jeu c'est Just Dance 2023. Il y a près de 15 ans, l'éditeur français Ubisoft a créé le FIFA des jeux de danse. On en reparle et désormais chaque fin d'année, c'est le même rituel. Un nouveau Just Dance qui sort sur toutes les consoles possibles et inimaginables et caracole dans le peloton de tête des ventes en France et dans le monde. Souvent plus de 10 millions d'exemplaires vendus par jeu, donc ça fait quand même beaucoup. Et la recette est immuable, hein, une playlist d'une quarantaine de tubes et d'hier et d'aujourd'hui, et surtout d'aujourd'hui d'ailleurs, à l'écran, des chorégraphies enlevées, colorées, que l'on doit reproduire dans son salon, enfin où on veut d'ailleurs, mais surtout dans son salon, en respectant le rythme et la gestuelle des danseuses et danseurs du jeu, afin de gagner le maximum de points, en tout cas, plus que sa voisine ou son voisin.
Christophe Audoré, vous connaissez Just Dance?
Bah ouais, j'avais une fille de 17 ans, donc forcément, il y a eu plusieurs concours. Oui.
Ah, voilà. Il y a eu des concours.
Ah, vous avez participé?
Bah oui, oui.
Et alors, c'est comment?
Je suis ridicule, forcément.
Oui, oui. Mais alors, est-ce que vous savez la vraie recette de Just Dance?
Non,
parce que là,
bonne question.
La recette technique.
Ouais.
Mais la recette émotionnelle, c'est faire croire à des gens comme moi qui dansent comme des patates qu'on danse comme des princes.
Ah,
ça,
oui.
Ça, ouais. Merci Just Dance. Parce que d'autres jeux comme Dance Dance Revolution, par exemple, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment nul.
Ah, il faut vraiment être bon.
Ah, ouais, il faut vraiment être bon. Là, on peut. Par exemple, la version Wii, c'était génial. On pouvait danser de son canapé allongé.
Moi, j'étais en Wii. Oui, voilà. Je faisais le minimum et en fait, j'arrivais à avoir les points.
Exactement. Ben voilà, il a tout expliqué, Christophe. C'est tout à fait ça. Quelques nouveauté dans ce Just Dance 2023 réalisé non loin d'ici en région parisienne. Déjà, on peut jouer l'intégralité des musiques en ligne avec six autres personnes. Donc, s'il y a des dîners familiaux qui se passent mal parce qu'on a parlé de barbecue, parce qu'on a parlé de gilets jaunes, hein, on peut très vite s'engueuler, eh bien, on peut avoir des gens en ligne et comme ça, on a fini la famille, fini personne. Normalement, c'est quand même mieux en famille. Il y a aussi un nouvel abonnement qui s'appelle Just Dance Plus si vous voulez jouer à plus de chansons. Il y a une quarantaine déjà, donc c'est pas mal. Mais là, vous avez un accès à 150 chansons. Et puis justement, je vais vous proposer de jouer dans ce studio, non pas à danser, je vous rassure, je vois l'œil noir de Christophe, mais à un quiz. Alors, un quiz,
surtout.
Attention, c'est un quiz musical, mais pas besoin de connaître.
Blind test.
Oui, mais pas besoin de connaître le nom de l'artiste ou le titre, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le temps. D'ailleurs, je pense que le lycéen, il y a une question aussi sur cette temporalité. Il s'agit pour vous de savoir si c'est Just Dance 2009 ou Just Dance 2022.
Ah, voilà, trop facile. Alors.
Vous jouez tous les trois.
D'accord.
Non, attention.
Ah bon,
attention,
alors,
attention.
Moi, j'ai pas les réponses. Je précise tout de suite que j'ai pas les réponses.
Alors, non, je les ai pas mis. Vous
il a mis exprès. Il a mis danse 1, danse 2, danse 3, danse 4.
Non, vous les avez
parce
pas,
que normalement, il y a les réponses. Alors, là, je les ai pas.
Malheureusement, il y a pas d'Alex Baupin. Ça,
ouais.
c'est vraiment
en
dommage.
En même temps, pour danser, on va pas mettre Alex Baupin.
Non, non.
C'est pas lui faire outrage que de dire ça.
Moi, j'ai joué au 2009 de Just Dance.
Il le dit maintenant.
Mais il y a Toutou Cotugno. Je l'ai pas mis non plus. Il est pas dans la. Il est aussi dans le lycéen. Allez, on commence par le premier.
Facile.
2009. Qui dit 2009?
Bah 2009, évidemment.
Ouais, on imagine.
Ça, je me souviens.
On peut dire qui c'est. Chacun. Oui, on peut dire qui c'est, bien évidemment. C'est les Beach Boys. 1964, évidemment, I Get Around, c'est absolument magnifique. Alors attention, ça va être une machine à boomeriser. Voilà, vous êtes prêts, hein, parce que ça va être dur. Hein. Voilà, on y va.
2022.
Ouais, je suis assez d'accord avec Paul.
Moi aussi, je suis d'accord, mais pour une raison autre, c'est que je sais pas ce que c'est.
Moi aussi.
C'est
cool. Personne ne sait ce que
vous
c'est.
Vous savez ce que c'est ou pas?
Non.
BTS.
C'est...
Oh là là, pourtant, je les ai vus. Je les ai vus à Bercy, BTS.
Ouais, et ben voilà, BTS, l'un des 2019, donc Boy with Love.
La tête qui fait, Paul, il fait BTS, il est excédé.
Non, mais c'est des.
Ouais,
c'est des Coréens.
Ouais, Coréens, c'est ça.
Allez, troisième extrait, on y va, on est parti, on est chaud.
Oh. 2009.
2009.
Just Dance 2009, bravo.
Oh, je vais le racheter le jeu là.
Ouais.
Je
Cyndi Lauper.
Ouais.
Girls
Loper.
Have more fun, c'est ça?
Girls just want to have fun.
Just want, voilà.
Exactement. Cindy on veut du fun et on veut de la liberté. Alors, là, il y a deux pièges qui arrivent parce que je savais très bien que vous alliez trouver ces trois-là. Allez, quatrième extrait.
2009, Lady Gaga.
J'en dis non ou j'en dis oui?
Ah, moi, je sais pas. Moi,
bah,
je
il a dit Lady Gaga.
Oui, je me suis trompé.
Hein. Ouais, c'est 2022, alors c'est pas 2009.
Genre.
Exactement, c'est 2022, c'était le piège. D'ailleurs, c'est le morceau qui s'appelle Téléphone. Lady Gaga, c'est sorti exactement cette année-là, en 2009. Mais là, ça fait partie
là
de la playlist 2022. Et le dernier, peut-être le morceau des morceaux, enfin un morceau qu'on aime tous ici, moi je pense. Voilà. C'est souvent ça. Oui, très bien, allez, on pousse.
2009, Britney Spears Toxic, voilà, c'est super.
Alors,
j'aurais pas reconnu.
Toxique de Britney Spears.
J'aurais pas reconnu. Quand je sais, je dis je sais. Quand je sais pas, je dis je sais pas.
Alors,
il a reconnu tout de suite.
2022.
2009. On se souvient, dans le jeu, il était super. Ouais, ouais.
Alors, c'était Womanizer dans le Just Dance 2009, donc non, c'était pas Toxic, fait partie effectivement du 2022.
Oh là là, mais
c'était là où
on s'est fait piéger.
Mais quoi, c'est un sample alors ?
Non, mais on dirait vraiment le Womanizer du 2009.
Ah, bah effectivement, de toute façon, le morceau lui date de 2003, donc vous aviez quand même un peu raison, mais il y avait du piège. Donc voilà, 40 nouveaux morceaux, dont BTS, dans ce Just Dance 2023. Maintenant, vous le saurez quand on vous parlera de BTS, mais évidemment, je sais bien ce que c'est. Une playlist qui m'a boomé immédiatement et instantanément, donc vous pouvez y aller direct.
Extraordinaire. Vous avez vraiment, vraiment racheté le jeu ?
Ouais, mais ce qui est bon, trop marrant, c'est Christophe qui dit « Ah oui, je m'en souviens, cette chorale sur le 2009, elle est super !»
Mais parce que je veux revoir faire du... Mais c'est parce qu'il y avait du Britney Spears dans le 2009.
Ouais, voilà, donc j'ai compris. Il y a une bonne mémoire, quand même.
Les gars, vous êtes trop pointus pour moi. Culture Média continue. Merci beaucoup, Jean Z. À très, très vite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Christophe Honoré pour Le Lycéen, c'est son nouveau film qui sort mercredi. Paul Kircher est avec nous, vous avez le premier rôle Paul, et puis il y a Juliette Binoche, Vincent Lacoste. Comment s'est passée la scène ? J'ai appris que c'était la première scène où vous êtes ensemble tous les deux en voiture, c'est une scène très importante. Vous l'avez faite pour cette scène ou vous l'avez faite comme de la maïotique pour apprivoiser Paul Kircher ?
Un peu des deux, parce que c'est vrai que c'est... Vous posez toujours un peu la question de par quelle scène vous avez démarré un premier jour de tournage. Parce que souvent, c'est quand même le premier jour de tournage, il part à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent,
je ne savais pas, vous me l'apprenez. C'est comme la première crêpe.
Woody Allen, par exemple, il refaisait toujours carrément sa première semaine de tournage. En fait, elle partait directement à la poubelle. Et c'est normal, hein, parce qu'il y a quand même tout un temps d'apprentissage. Et là, en fait, nous, on a démarré avec Paul. Et effectivement, moi, du coup, je joue un petit rôle dans le film, le rôle du père. Et on était tous les deux coincés, du coup, dans une voiture en tant que comédien. Et moi, comme je suis un comédien vraiment incompétent, je me disais que ça nous mettait à égalité. Et c'était une bonne manière de montrer à Paul en fait, qu'on allait faire ce film en allié et non pas, on va dire, avec le metteur en scène qui serait un peu au-dessus de l'acteur.
Quand vous dites que vous êtes un comédien incompétent, c'est pas un peu une posture ? Si vous le pensiez vraiment en tant que réalisateur, vous ne confieriez pas un rôle ?
Si, parce que justement, comme vous parlez, c'est assez proche quand même de mon histoire, et que là, le rôle du père, je me suis dit que j'étais la personne qui était le reflet le plus juste de mon père aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était presque un peu sentimental aussi de faire ce rôle.
Alors, vous êtes tous les deux en voiture pendant un long trajet. On écoute.
Il n'y a pas grand-chose à se raconter pendant ce trajet. Mais je me souviens qu'à un moment, il me dit que...
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Il aurait pu avoir une vie différente. Qu'il aurait pu être autre chose qu'un prothésiste dentaire dans un village au fond d'une vallée.
Pas que tu loupes ton année, hein. Je veux pas être lourdeau, je veux pas te faire croire que le lycée c'est le truc le plus important de ta vie, mais ça commence là. Tu dis ouais, mais bon, faut pas avoir de regrets plus tard. Quand j'avais ton âge, si j'avais été plus discipliné, bah j'aurais peut-être pas la vie que j'ai maintenant. J'aurais pu faire autrement, vivre autrement.
T'es pas heureux ?
La question, c'est pas de savoir si je suis heureux.
Je sais que tu me le dis sûrement pour motiver à bosser. Qu'il faut pas, mais n'empêche que tu t'es permis de mettre ta vie en doute devant moi.
Que tu fasses ce qu'il faut.
Et ce que j'ai ressenti alors, assis tout près de toi, dans cette voiture, c'est de la peine.
Ce que j'ai ressenti, c'est de la peine. C'était la dernière conversation avec votre père, que vous citez évidemment de mémoire.
Oui, et puis forcément, on sait que notre mémoire peut arranger les choses, mais en tout cas. Dans mon souvenir, j'ai ce sentiment-là, effectivement, que la dernière fois où j'ai pu parler avec mon père, il a remis en cause sa vie, tout simplement devant moi. Et donc, pour moi, c'était très important, en fait, cette scène. Vous savez, dans les films, il y a comme ça toujours des espèces de cœurs secrets. Et pour moi, ce film répond vraiment à ça, au manque, en fait, que je ressens encore aujourd'hui de mon père.
Rosebud.
Exactement.
Question évidente, est-ce que comme François Truffaut, vous avez trouvé votre Jean-Pierre Léo, votre Antoine Doinel, que vous allez garder longuement ?
On va voir comment il évolue. On va voir comment il évolue. On va voir si les autres cinéastes l'abîment pas trop, etc.
Parce que Léo, il tournait presque avec Truffaut. Bah vous avez raison.
Mais Paul, je le sens qu'il va être beaucoup plus infidèle que Jean-Pierre Léo.
Et sur une image dossier de presse, vous avez presque le même regard que Piala sur le film À nos amours, où il jouait le rôle de Sandrine Bonner.
Parce que je deviens un vieil ours, en fait.
J'osais pas le dire, voilà. Mais comme vous l'avez dit, merci. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film, Paul Kircher ? Pourquoi vous êtes allé passer le casting ? Je vous pose la question, parce qu'à la base, vous ne vouliez pas devenir comédien. En dépit du fait que vos deux parents, Jérôme Kircher et Irène Jacob, sont comédiens, pourquoi vous y êtes allé ?
Non, à ce moment-là, je voulais être comédien. À ce moment-là, si, je voulais. Donc, Ça m'intéressait de rencontrer un cinéaste, rencontrer, c'est d'abord Léolo qui s'occupait du casting que j'ai rencontré, mais ensuite, au fur et à mesure des rencontres qu'on a fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme a dit Christophe, il se passait un truc tout de suite, quoi. C'était amusant et puis intéressant. Ensuite, le film, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à m'approprier cette mémoire que retranscrit Lucas, quoi, dans le film.
Mais à la base, je vous interromps, à la base, vous ne vouliez pas faire de cinéma. C'est ça qui m'a vraiment étonné, parce que je me dis, ils ont deux parcours en miroir. À la base, le papa de Christophe, qui était un peu scientifique, voulait qu'il fasse maths sup, maths spé. Et vous-même, qui avez des parents comédiens, vous ne vouliez pas faire ça.
Mes parents, eux, ne voulaient pas que je fasse...
Non, vous ne vouliez pas.
Moi, non, à la base, je ne sais pas, peut-être que j'en avais envie, mais...
Vous vouliez devenir quoi ? Prothésiste dentaire ?
Ah non, mais ça faisait peur,
géographe.
C'est vrai.
Il faisait des études de géographie.
Ouais, c'est vrai, je faisais des études de géographie. Et je pense que ça me faisait peur de faire des études exclusivement de théâtre. Mmh. Et j'aurais voulu en faire peut-être un peu plus tard, quoi, mais mon père, il m'a dit, non, t'inquiète, pour l'instant, on ne fait pas de théâtre, plutôt regarde 3 films par jour, ce sera bien.
Magnifique. Votre devise, Christophe Honoré, tout faire par erreur. Qu'est-ce qui a été fait par erreur sur ce film ?
Oui, c'est vrai. En tout cas, j'aime bien l'idée qu'il faut se méfier des formes trop solennelles. Et quand vous êtes comme ça autour de quelque chose... Pour moi, par exemple, c'était très, très important que ce film ait une énergie. Et pour ça, vraiment, je remercie Paul, parce que Paul a apporté vraiment une énergie d'aujourd'hui. Et c'est quand même un film autour d'une résurrection, tout simplement. C'est quand même quelqu'un qui revient dans la vie et qui revient dans la vie d'une manière... Vous savez, c'est une espèce de cliché de dire ça, parce qu'on pense tout de suite James Dean, etc. Mais ce film était très, très important, La fureur de vivre. Et moi, je ressens ça, en fait, chez Paul. Paul a cette espèce comme ça de joie dans la vie qui apporte énormément au film lui-même.
Et je ne l'ai pas dit encore, Paul, vous êtes dans la liste des révélations pour les Césars. On verra le résultat, le verdict. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Paul Kircher, Christophe Honoré. Je le rappelle, Le Lycéen, ça sort mercredi. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Comment le réseau social chinois TikTok fait trembler les géants américains de la tech? C'est ce que va nous raconter la journaliste du Figaro, spécialiste de dossier Chloé Vautier. Et puis, il revient sur Europe 1. Mais cette fois, comme invité, c'est Jean-Pierre Elkabbach pour son livre Les Rives de la mémoire. C'est un page-turner, ce qu'il raconte sur les médias est absolument saisissant. Et puis, la chanteuse révélée par The Voice, Anne Silla, sera avec nous pour un album de reprise des chansons qu'elle écoutait enfant. Ça s'appelle Madeleine, le titre est bien trouvé. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Le programme du jour est d'abord bonjour.
Bonjour Philippe, vous avez rêvé de quoi cette nuit, Philippe ?
Moi, je ne fais quasiment aucun rêve. Oh. Et cette nuit, c'était assez bizarre parce que j'ai fait le vaccin de la grippe ce week-end et du Covid. Donc, j'étais un peu tout embrumé. Exactement.
Alors, vous savez que vous rêvez, c'est simplement que vous ne vous souvenez pas de vos rêves. On va analyser ça dans Bien fait pour vous, Mélanie, hein, avec notamment ce qui se passe dans le cerveau.
On va faire quelques analyses de rêves, comme ça, avec la psychanalyste qui sera avec nous. Et puis on verra également qu'on peut parfois les diriger, ces rêves.
Voilà,
on va vous apprendre ça, un peu ça, c'est ça. On voit que vous connaissez le sujet.
C'est extraordinaire. C'était un papier dans Actuel dans les années 80, quand Christophe Honoré était ado. Merci, bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut à tous. Europe 1.